Bonjour à tous, je suis Didier Polignici, formateur en droit à Contalia.com. C'est moi qui ai procédé à la correction de votre épreuve du E3, épreuve en droit social, épreuve qui était originale, c'est peut-être le mot qu'on va utiliser cette année pour qualifier votre épreuve, originale dans la mesure où vous n'aviez que des cas pratiques, vous aviez beaucoup de textes sur lesquels il fallait vous appuyer, que ce soit des articles du Code du travail, que ce soit des extraits de communiqués de presse ou des extraits d'un accord d'entreprise. Il fallait penser, et j'espère que vous l'avez tous fait, à intégrer ces éléments au niveau de votre travail et au niveau du traitement des différents cas pratiques. Dans le cadre de cette épreuve de droit du travail, qui était au demeurant au-delà de cette originalité, c'est-à-dire pas d'arrêt, pas de questions de cours, que des cas pratiques, au-delà de cette originalité, vous aviez quatre dossiers sur la même société, et ça, c'est pas non plus très gênant, et qui, comme d'habitude, traite de quasi la totalité de votre cours du E3. Vous savez, en tant que formateur qui vous accompagne toute l'année, je vous dis souvent, attention, pas d'impasse, et je ne le dis pas simplement parce que dans le cadre de mon rôle de formateur, je me dois de vous le dire, parce que la preuve, c'est que vous êtes amené à être interrogé sur tout. Il fallait bien évidemment structurer son propos, c'était les cas pratiques, donc un problème de droit systématiquement posé, des règles juridiques précisément développées et une application au cas, donc pensez à ça. Ensuite, il fallait aussi penser cette fois à utiliser les documents et regardez la toute première question dans le dossier 1 qui vous est posé, elle porte sur un salarié qui est volontaire pour une période d'astreinte. Donc la première question portait sur les modalités de fonctionnement d'une astreinte. Et une fois que vous aviez posé les principes de fonctionnement, il fallait pas oublier à gérer la situation pratique parce qu'un salarié, Monsieur Bellal en l'occurrence, il vous demandait bien qu'est-ce qui allait se passer pour lui s'il était volontaire. Donc on attendait en fait que vous soyez en capacité d'expliquer que sa semaine d'astreinte allait lui rapporter tant, ses interventions allaient lui rapporter tant. Il y avait quand même un cas pratique à gérer par rapport à un salarié. Ensuite, la question 2 ici portait sur le délai de prévenance à respecter lors de la mise en place d'une astreinte. Donc, le Code du travail dit délai raisonnable. Vous aviez l'article mis à votre disposition, il fallait l'identifier. Et l'article 3 de l'accord prévoyait 30 jours. Donc, on peut penser que les éléments sont bien respectés ici et que tout respecte le cadre légal et que cette astreinte sera valable parce que respectant le cadre légal. Au niveau du dossier numéro 2, il fallait traiter ici de la transformation de l'entreprise et du maintien des contrats de travail. Une première question et un premier problème de droit que nous avons formulé de la manière suivante. À quelles conditions un projet de fusion constitue-t-il une modification de la situation juridique de l'employeur? C'est ça pour nous le problème de droit. Et on a bien identifié la notion de transfert, la notion d'entité économique autonome et la poursuite de l'activité. Donc, vous aviez dans le communiqué de presse des éléments qui vous permettent d'identifier ces points-là. Bien évidemment, on vous posait la question du sort des contrats en cas de modification de la situation juridique. Donc là, c'était l'article que vous connaissez peut-être même par cœur parce qu'on en a parlé, le L1224-1 du Code du travail qui prend en charge le principe de transfert automatique des contrats. Et là, il y avait, et c'est vrai qu'on n'a pas vu tout de suite la trame et le fil conducteur, une question de dénonciation d'un usage. Donc là, c'était une question toute bête sur la dénonciation d'un usage, mais attention, avec là aussi un élément d'originalité, c'est que vous aviez un arrêt et il fallait comprendre que cet arrêt portait justement sur cette question-là, autour de la mise en place des instances représentatives du personnel et de l'existence d'un CSE. Donc, il fallait bien identifier cet aspect-là. Et c'est à ça que servait l'arrêt ici. C'était pour cette question sur le dossier numéro 2, question numéro 3. Un thème qui, moi, me tient à cœur et qu'on ne retrouve pas toujours dans votre épreuve du E3, la protection de la santé des salariés. Donc, une question sur la maladie professionnelle et les caractéristiques d'une maladie professionnelle. Première question du dossier numéro 3. D'accord? Là, le salarié avait deux situations qui lui arrivaient. Donc, là aussi, encore une fois, être attentif à l'énoncé. Il avait une première chute dans ses escaliers, et là, c'est de la maladie ordinaire au mieux. Et ensuite, il avait la perte d'audition sur la deuxième partie de pathologie, et là, ça relève potentiellement du tableau 42, tableau 42 que vous aviez à votre disposition. Alors, attention, vous aviez aussi un tableau sur les troubles musculo-squelettiques, mais comme l'origine de la douleur et de l'hernie discale était une origine privée, il n'est pas possible, en fait, pour cette personne de mettre en avant ce tableau-là pour faire reconnaître un quelconque caractère professionnel de sa maladie. Et puis enfin, dossier numéro 4, et là encore une fois, le sujet était quand même assez dense et on vous demandait une certaine gymnastique intellectuelle parce qu'il fallait passer de l'un à l'autre à chaque fois. Quelles sont les conditions de validité d'une grève? D'accord, donc là, c'est une question presque de cours, même si c'était caché dans un cas pratique. Question, à mon avis, que vous tous avez pu capitaliser, sur lesquels vous avez pu capitaliser des points, puisqu'il suffisait de reprendre la définition de la grève et constater que les salariés remplissaient les critères pour être considérés grévistes. Et puis, vous aviez une deuxième question, et là, c'est aussi original parce que c'est pas une question qui revient souvent, sur les modes alternatifs de règlement des différends, d'accord, notamment en droit du travail. Ici, il fallait identifier plutôt l'arbitrage comme étant la réponse attendue. Et puis enfin, quelles sont les possibilités de sanction d'un salarié pour des agissements commis dans le cadre d'une grève? Si le principe c'est que le salarié ne peut pas être sanctionné pour avoir été en grève, lorsqu'il commet des fautes, et notamment des fautes lourdes, il pourrait faire l'objet de sanctions. Ici, un salarié qui volontairement dégrade les biens de l'entreprise, qui ne se cache pas de l'avoir fait, commet bien évidemment une faute lourde qui pourrait entraîner une sanction. Donc, sur le fond, pas de difficulté particulière, il nous semble, même si c'était long et même si cela demandait de passer d'un thème à l'autre. Il y avait des questions qui n'étaient pas régulièrement posées, mais ça, c'est pas très grave parce que une fois passé peut-être la première surprise, vous êtes allé chercher dans vos connaissances et vous avez su, à mon avis, répondre aux différentes questions qui vous étaient posées. En tout cas, je l'espère véritablement. Donc, il faut poursuivre maintenant vos efforts. Nous, nous restons bien sûr à votre disposition sur le forum. Vous n'hésitez pas à nous solliciter sur celui-ci. Et c'est avec plaisir que nous échangerons avec vous sur les thématiques et sur les points qui vous ont pu éventuellement vous poser un souci dans le cadre de cette épreuve. Mais je suis à peu près sûr que ce n'est pas le cas. En tout cas, je l'espère véritablement. N'hésitez pas à nous solliciter, même si ça s'est bien passé, parce que ça me paraît intéressant que l'on puisse échanger sur les thématiques et que l'on puisse effectivement asseoir peut-être le travail pour les prochains apprenants pour vous permettre d'être plus à l'aise encore avec votre matière. Écoutez, poursuivez vos efforts, nous nous restons à votre disposition. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.